Bonjour et bienvenue sur Radio Aubrac. Nous sommes le mardi 10 décembre 2013 en salle H3. Aujourd'hui, nous vous présentons la deuxième partie de Baba Yaga, racontée par Léna Magnan, et la deuxième partie d'une nouvelle de Lucille Hoffman.
Baba Yaga n'avait qu'une seule dent, et c'est probablement cela qui l'avait rendue si méchante. Dès son plus jeune âge, elle dut subir les moqueries de ses camarades et personne, pas même Papa Yaga et Mama Yaga, ne pouvait la consoler. Malgré tout, elle voulait ressembler aux autres enfants et apprit à siffler, mentir, rôter et surtout à mâcher avec une seule dent. Pour s'entraîner, elle mangea son chien, Wawa Yaga, car au fond, elle n'aimait pas vraiment les animaux, sauf un ragoût. Mais les enfants se moquaient toujours et Baba Yaga devint méchante. Le temps passait et Baba Yaga se sentait très seule. Comme elle avait une dent contre les autres enfants, elle en mangea quelques-uns. Elle trouvait ça plutôt goûteux et décidait de devenir ogresse, au grand désespoir de Papa Yaga et de Mama Yaga, qui la chassèrent dans une forêt de ténèbres, loin du foyer familial. Elle ne resta en bon terme qu'avec sa sœur, Kaka Yaga, qui, pour des raisons obscures, avait décidé de changer de nom. Baba Yaga n'avait aucun ami et tous dans son dos l'avaient surnommée Gaga Yaga. L'ogresse devint encore plus méchante. Devenue une vieille femme, Baba Yaga continua de manger les enfants. Tarte aux mouflets, rôti de momo citron confit, boudin de mioche aux olives, lardon. Elle ouvrit alors un restaurant au bambin qui rissole. En ogresse de goût, elle avait porté une attention toute particulière à la décoration de sa maison. Mais personne ne vint, et c'est là qu'elle devint vraiment, mais vraiment méchante.
Et maintenant, la deuxième partie de Une nouvelle de Lucille Hoffman.
Comme elle est courageuse, comme tu es courageuse, petite étoile. Fred but une gorgée de la bouteille de vin qui posait à côté de son sac de couchage, semblait lui faire de l'œil. Il lui lança un regard haineux, puis but encore une gorgée. Peu de chaleur vient lui réchauffer les entrailles. Il soupira d'aise.
Tout là-haut, la petite étoile lui dit qu'il ne devait pas boire. Fred lui sourit tristement. « Tu as raison, petite étoile, » répondit-il tout bas dans le silence de la nuit. Mais ses mains se mirent à trembler. On aurait dit qu'elles étaient dotées d'une vie propre, qu'elles se rapprochaient elles-mêmes de la bouteille de vin. La petite étoile se mit à pleurer, et Fred lui fit savoir combien il était désolé. Mais il but quand même une longue lampée de la boisson rouge tant aimée. « Tu sais, petite étoile, je ne peux pas faire autrement. Je noie mon chagrin dans cette bouteille. C'est comme une potion magique. Quand je la bois, je me sens moins triste. Tu comprends? Toi, tu n'as pas de soucis. Une étoile, c'est forcément heureuse. »
Non. La petite étoile répondit que oui, elle comprenait, mais que si les étoiles avaient leurs problèmes, mais elles trouvaient la force de continuer, de ne pas s'arrêter, de ne pas perdre espoir. Elle dit aussi que tout finirait par s'arranger, mais que dans la bouteille, celle qui devenait sa meilleure amie était perfide. Dedans, ce n'était pas de la potion magique. C'est du poison. Fred expliqua à la petite étoile qu'il la trouvait très gentille.
Mais la petite étoile avait disparu. Elle s'était fait éclipser par un nuage chargé de pluie et de chagrin. Fred se mit à pleurer doucement, sans honte, sans chercher à se cacher. Un passant lui lança un regard plein de pitié. Il décida qu'il en avait assez de cette pitié. Elle le poursuivait, il la voyait partout, dans les yeux des gens, dans les pièces qu'on lui donnait, et même dans son propre reflet. Là, dans cette flaque d'eau sale. Fred se leva, empoigna sa bouteille et la lança de toutes ses forces sur la route. Un bruit de verre cassé s'ensuivit, puis plus rien, le silence. Le silence admiratif de Petite Étoile.